Shabbos Kodesh. Yidela prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh. A priceless gift.
Bonjour à tous et bonjour à toutes pour ce nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha de la semaine. On est très heureux de vous trouver, comme chaque semaine, à mes côtés. Ce Shabbat, le rabbin Avraham Breil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous?
C'est à vous qu'il faut demander. On est très heureux de vous voir avec nous dans ce studio.
C'est gentil.
Et on est heureux de partager ce grand rendez-vous en direct. Et en tout cas en présentiel, on va dire, tous les deux dans ce studio avec toute l'équipe et avec Lucas également.
Évidemment.
Qui fait son grand retour à la technique.
Voilà. Cette semaine, ce sera Shabbat HaChodesh, Parashat Tzria. On dit Shabbat HaChodesh parce que Rosh Chodesh c'est ce soir et demain Shabbat.
Alors non, c'est Shabbat HaChodesh, Rosh Chodesh. C'est-à-dire que nous avons en réalité ce Shabbat à trois noms. Ça va être Shabbat Tzria. Rosh Tzria, c'est la parasha de la semaine. Rosh Chodesh, parce que nous célébrerons Rosh Chodesh donc à partir de ce soir et demain, le premier Nissan. Et HaChodesh, qui est le nom du quatrième Shabbat spécial de ces quatre Shabbatot que nous célébrons tout au long du mois d'Adar. Et donc c'est le quatrième de la série, en référence le nom de HaChodesh au passage que nous lirons demain dans le troisième Sefer Torah que nous sortirons.
On sort trois Sefer Torah.
Donc nous sortirons trois Sefer Torah, un premier dans lequel nous lirons la paracha de Tzria, un second Sefer Torah dans lequel nous lirons donc la septième montée qui sera celle de Rosh Chodesh, et un troisième Sefer Torah pour le Maftir, pour lequel nous lirons le passage de HaChodesh qui se trouve donc dans le livre de Shemot.
D'accord.
Alors, Parashat Bo, plus exactement.
L'allumage des bougies ce soir à 19h41 et la fin ce sera demain à partir de 20h49. On rappelle qu'on est passé à l'heure d'été la semaine dernière, mais ça n'a pas d'incidence sur la tefila au niveau des hivers et été. On lit toujours Machiv Avoir Brudel Gishem et Barach Alenu.
Voilà, tout à fait, puisqu'on repassera sur l'autre formulation à partir, comme vous le savez, de Chol HaMoed Pessah, puisque c'est à ce moment-là, c'est le premier jour de Pessah que nous récitons la fameuse Tfilah Tatal, et donc jusqu'à la fête de Pessah, eh bien, nous restons encore calibrés en mode hiver.
Alors,
et d'ailleurs, la température extérieure et la météo nous rappellent qu'on est bien en hiver.
Comme chaque semaine, on souhaite un refouga shlema à tous les malades, et particulièrement à Rivka Bat Mesrouda. On souhaite un courage à tous. On sait que c'est long, que c'est des fois difficile, mais il faut tenir le coup pour revenir en bonne santé. Et je sais de quoi je parle.
Et je vous souhaite à mon tour un grand refouga shlema, Jean, avec toute la pudeur qui vous caractérise. Mais je m'autorise à vous souhaiter également un grand refouga shlema.
Merci beaucoup, monsieur Gravin. Shabbat shalom, c'est également tout spécial à toutes les personnes qui sont isolées et les personnes âgées qui sont nombreux à nous écouter. Et nous dédions cette émission à l'élévation de l'âme de Madame Solange Mounelia, Zichrono Livracha, et de Alice Teboul, Zichrono Livracha. Je crois que c'est de votre famille, c'est votre grand-mère.
C'est ma grand-mère qui nous a quittés il y a quelques jours.
Donc, Baor Dayan Haemet pour Alice Teboul. Avant de parler de la paracha, je voulais avec vous parler de différents sujets d'actualité. Malheureusement, en Israël, en une semaine, 12 victimes, attentat à Beersheva, attentat à Hadera, attentat à Bnei Brak, avant-hier. Je voulais vous demander quelle réaction on peut avoir quand les gens qui sont en face de nous n'ont qu'un seul rêve, une seule fonction de vivre, c'est de nous tuer ou de vouloir notre destruction. Comment on réagit ?
Déjà, le sentiment, c'est un sentiment d'horreur. Je crois que dès qu'on est confronté à nouveau à un attentat, surtout après une période d'accalmie relative, on est toujours saisi finalement par l'horreur, par la froideur de ces attentats, de ces terroristes qui, comme vous l'avez rappelé, Jean, en réalité, viennent pour tuer, mais sont prêts à mourir. Et la difficulté, c'est toujours de se demander quelle est la solution pour combattre quelqu'un qui, de toute façon, est prêt à mourir, qui vient pour faire un maximum de victimes, en sachant pertinemment qu'il va être tôt ou tard abattu par les forces de sécurité. Donc il y a une difficulté à lutter contre quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Bien sûr, et ce n'est pas pour faire des bondieuseries, je crois que nos tefillotes, nos prières, notre renforcement, le salut dans ce genre de situation où justement on se sent totalement impuissant, il est de s'en remettre à Kadosh Baruch Hu, je crois plus que jamais, c'est une réalité. Lorsque nous sommes confrontés justement à une telle froideur dans le mode d'action, à une situation dans laquelle finalement, eh bien, quelle que soit la préparation militaire, quelle que soit la préparation des forces de sécurité, pourra peut-être atténuer des fois certains bilans, mais en aucun cas finalement, malheureusement, n'enrayer totalement ces manifestations de violence, mais il faut s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Alors, on a entendu par-ci, par-là, ces Gdolim, ces Rabbanim nous dire qu'on était bien sûr troublé par cette série d'attentats et la proximité de cette série d'attentats avec la disparition d'un grand maître dont on va parler également, la disparition de Rabbi Chaim Kanievski. Voilà, pour ma part, je ne veux pas faire de raccourcis trop rapides et lier cette manifestation de violence accrue de ces derniers jours forcément à la disparition de ce grand maître, mais ça doit nous donner à réfléchir. Voilà, c'est simplement ce que je veux partager avec les auditrices et les auditeurs aujourd'hui, c'est que ce n'est pas finalement vouloir fermer les yeux sur une réalité ou se réfugier finalement dans quelque chose, dans une explication qui pourrait être confortable pour certains, que de dire que la disparition d'un grand maître, elle ébranle le monde. Elle ébranle le monde, c'est une réalité. Rav Chaim Kanievski était un géant, c'est quelqu'un qui protégeait l'humanité d'une certaine manière, de par les mérites qui étaient les siens, de par son engagement dans la Torah, de par son étude, qui était une étude, on le sait, de chaque instant. Rabbi Chaim Kanievski dormait très très peu, et forcément la disparition d'un géant comme lui, eh bien ça bouleverse le fonctionnement du monde, ça bouleverse certaines données, et ça peut entraîner des choses qui parfois nous dépassent.
Alors, on en a parlé à l'instant même, le décès de Rav Yosef Chaim Kanievski, décédé à l'âge de 84 ans.
94.
94, autant pour moi. 500 000 personnes ont assisté à son enterrement. Vous, personnellement, l'image que vous avez de Rav Kanievski, s'il fallait résumer en quelques mots, c'est pas possible parce que t'es un énorme géant, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour dire à nos auditeurs quelle grandeur il avait ?
Je pense, ça a été dit et redit, une des caractéristiques de Rav Chaim Kanievski est ce qui a fait qu'il a été un homme aussi populaire et que son décès a eu une telle répercussion, une telle médiatisation. Et vous avez parlé de 500 000, certains vont même dire qu'il y avait jusqu'à 1 million de personnes, en tout cas un nombre tout à fait impressionnant de personnes. C'est que Rabbi Chaim Kanievski, tout en représentant le monde de la Torah, était aimé et consulté par toutes et tous, c'est-à-dire quel que soit leur engagement religieux, quel que soit leur degré de pratique. On a vu des hommes politiques, on a vu des acteurs, on a vu des personnes vraiment un petit peu de tous les milieux, parfois des personnes qui n'étaient pas de confession juive, et qui venaient rendre visite à Rabbi Chaim Kanievski pour s'imprégner de ses conseils. Ces conseils qui étaient toujours d'une grande justesse et impressionnant d'ailleurs pour un homme qui a priori n'avait aucune connaissance du milieu extérieur, parce qu'il a vraiment passé toute sa vie à l'étude de la Torah sans beaucoup sortir de chez lui, si ce n'est pour se rendre au Beit HaMidrash. Et pourtant, eh bien, son intelligence, sa pertinence faisait qu'il avait une connaissance et une grande sensibilité et un sens de l'analyse hors du commun pour des situations qui, a priori, ne le concernaient pas et ne faisaient pas partie de son quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on a pu apprécier chez lui. Le deuxième point, si on devait vraiment résumer en quelques mots sa vie, c'est sa mémoire tout à fait phénoménale, c'est le nombre de connaissances qu'il avait en étude de la Torah, et c'est son assiduité incroyable. On le rappelle, Rabbi Chaim Kanievski, un rav qui terminait chaque année un programme qui balayait, donc chaque année, on est quasiment à l'anniversaire finalement de ce grand moment qui était la veille de Pessah, et donc chaque veille de Pessah, Rabbi Chaim Kanievski qui terminait l'étude de l'ensemble des textes de la Torah, le Chumash, les textes des prophètes, des hagiographes, tout le Talmud Bavli, le Talmud de Jérusalem, les Midrashim, le Rambam, les textes de Maïmoni, du Shulchan Aruch, enfin c'est absolument incroyable, cette somme de connaissances que Rabbi Chaim Kanievski était capable d'ingurgiter finalement chaque jour. Et comme vous le savez, il ne se contentait pas de lire. C'est-à-dire que c'était du vrai limoud. C'était une étude approfondie qui lui permettait de s'imprégner véritablement de ces textes. Et ça, je crois que c'est unique dans une génération.
Alors, il y a deux anecdotes que je voulais rappeler, que j'ai appris. Notamment une vidéo qui tourne sur Internet où on voit le grand Rabbi Kanievski répondre aux brachot de sa femme quand elle fait la tefila le matin. Et une personne disait que quand ses enfants étaient petits, Rabbi Kanievski prenait 10 minutes par jour avec eux. Alors les gens disent, mais 10 minutes, c'est pas beaucoup, mais ils disent 10 minutes avec Rabbi Kanievski, je vous assurerai qu'il dit beaucoup de choses et fait apprendre beaucoup de choses en 10 minutes. Ça veut dire vraiment ce qu'il avait emmagasiné était fort et important.
Non, et puis vous rappelez tout simplement cette propension qu'il avait à accorder de l'importance à chacun. Alors bien sûr, à sa femme, à ses enfants, leur consacrer un moment particulier durant lesquels il pouvait avoir une étude privilégiée avec eux, et ça je crois que ça a été très important pour lui, avoir des moments particuliers aussi avec son épouse, malgré toutes les sollicitations dont il était l'objet, et surtout, et c'est, on l'a vu notamment dans les dernières années de sa vie, accorder un temps absolument incroyable à ces centaines, ces milliers de personnes qui venaient lui rendre visite, chaque semaine, chaque mois, et avoir, malgré le programme qui était le sien et que je viens de rappeler, eh bien, avoir cet amour pour l'autre qui lui permettait d'accorder du temps à chacun, même si c'était parfois quelques secondes ou quelques minutes, mais prendre le temps d'écouter la personne, de lui dire un mot gentil, un mot d'encouragement, une bracha, et ça, je crois que ça montre vraiment toute la grandeur de la personne qu'il a été.
Ce mois-ci, on a aussi commémoré les 10 ans de l'attentat de Toulouse, la tuerie de Toulouse, l'occasion pour nous d'avoir une pensée pour toutes les victimes de cet attentat, et particulièrement pour Jonathan Arié, Gabriel Sander et Myriam Monsenego. Monsieur Gravin, à l'époque, vous étiez rabbin à Toulouse. Je ne sais pas où vous étiez à ce moment-là, comment vous avez appris ce qui s'était passé. Vous êtes directement allé à la morgue, et dans le livre du père Sandler, il raconte qu'il a eu le plaisir de vous retrouver, de voir que vous avez veillé sur les corps des enfants. Quel est le souvenir que vous avez, vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de souligner dans cette journée-là ?
C'est une journée cauchemardesque, vous l'imaginez. Où je me trouvais ? Je me trouvais tout simplement dans l'une des synagogues toulousaines, la synagogue de Palapra. On venait de terminer l'office de Shacharit, et la tradition à Toulouse, comme ça se fait dans beaucoup de synagogues, c'est de partager un café convivial avec les fidèles à la fin de l'office. Donc c'est ce qui se passait, on venait de terminer et on était en train de boire le café. C'est un moment qui durait 10 minutes, un quart d'heure,
8h45,
en fonction des matins. Non, on est un peu avant 8h, il est 8h moins 5, à ce moment-là on vient de finir l'office il y a peut-être 5 minutes, et c'est à ce moment-là que je reçois un coup de téléphone qui ne vient pas de la préfecture. À ce moment-là, c'est le coup de téléphone d'un avraire, c'est-à-dire un étudiant, un collègue de Rav Jonathan Sandler, Zichrono Livracha, qui m'appelle, et lorsque je vois son numéro s'afficher aussitôt à 8h moins 5, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose, parce qu'il sait pertinemment que je suis à ce moment-là à la synagogue, que je viens de terminer l'office. Lui, en principe, commençait l'office à 8h, donc c'est pas du tout un moment où il est censé m'appeler, sauf pour une urgence. On a tous connu ça, hein, même avant les portables, lorsque le téléphone sonnait très tard à la maison, le fixe, ou très tôt le matin, c'était souvent pour annoncer une mauvaise nouvelle. Et c'est là qu'il m'annonce ce qui est en train de se passer. Donc je réalise pas tout de suite. Ces mots n'ont pas de sens finalement dans mon esprit, puisqu'il m'annonce des tirs dans une école, alors qu'on est un lundi matin tout à fait paisible dans une ville dans laquelle il n'y a pas de violence particulière, qu'elle soit verbale ou physique. Et donc, là, tout va s'enchaîner. Il faut très rapidement se montrer à la hauteur de l'événement. C'est bien sûr, vous l'imaginez, très difficile, surtout lorsqu'on est aussi jeune et qu'il faut gérer une communauté tout entière. Et ce que je retiens de cette journée, c'est cette capacité incroyable qu'ont eu chacun des acteurs de la communauté, et je pense avant tout à tous les responsables communautaires, de trouver leur place. C'est-à-dire que sans quasiment se consulter, avec un petit coup de fil, parce qu'on n'avait pas le temps de se parler, on était assaillis nous-mêmes de coups de fil en tout genre, de la préfecture, de la police, des journalistes qui commençaient à appeler de partout, et sans avoir véritablement le temps de se consulter, eh bien, chacun a trouvé sa place. Et chacun a su exactement où aller pour se montrer efficace et pour pouvoir à la fois épauler les familles, faire avancer les démarches administratives. Donc moi, vous l'avez rappelé, mon réflexe n'a pas été d'aller sur la scène de l'attentat parce que j'ai tout de suite compris que finalement d'autres personnes s'y étaient rendues et que de toute façon il n'y avait plus rien à faire, que le blessé Brian Bijaoui avait été évacué à l'hôpital, que les victimes allaient malheureusement les corps des victimes allaient également être déplacés pour les démarches qui sont propres inhérentes à une scène d'attentat, et donc il n'y avait pas grand intérêt à ce que j'aille immédiatement sur la scène de l'attentat, et je me suis donc rendu à l'hôpital de Rangueil dans lequel avait été évacué Brian Bijaoui, le blessé, et malheureusement dans lequel également avaient été apportés les corps des victimes. Et c'est dans cet hôpital de Rangueil que s'est notamment rendue la famille Sandler. La famille Monsonego, elle a été épaulée chez elle à la maison, dévastée comme vous pouvez l'imaginer. En revanche, la famille Sandler s'est rendue, et notamment je pense à M. Sandler, Samuel Sandler, et au reste de la famille, les parents d'Eva, etc., tous les frères et sœurs qui se sont rendus à Rangueil. Ils venaient de l'extérieur, ils venaient de Paris, et c'était mon rôle, je pense, que d'être là pour les rassurer, pour essayer de les épauler, les consoler. On trouve pas, il y a pas de mots. Vous l'avez compris, dans ces situations, c'est pas forcément avec des mots qu'on cherche à rassurer les gens. C'est une présence chaleureuse, et c'est être efficace dans des démarches. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous l'ai dit, il y a des démarches inhérentes à un attentat. Lorsque une cellule antiterroriste se saisit de l'enquête, et il faut trouver un équilibre entre le respect que la halakha demande bien sûr par rapport au corps, la vitesse avec laquelle on souhaite procéder à l'enterrement et de ne pas retarder toutes ces démarches, et donc en même temps l'apaisement des familles. Donc c'est vraiment dans cette voie-là que j'ai essayé de m'engager et de me montrer le plus efficace durant cette journée.
Le rabbinat organise depuis maintenant quelques semaines, le grand rabbinat, donc vous, une mobilisation pour l'Ukraine. Ça a été fait il y a 2 semaines. Là, on refait une mobilisation pour les produits de Pessah pour l'Ukraine. Je vais vous taquiner. C'est le rôle d'un grand rabbin d'aller dans les magasins pour récupérer des produits de première nécessité.
Le grand rabbin, Jean, c'est une personne comme tout le monde. Je crois que c'est très important de le dire, et je crois que c'est non seulement le rôle du grand rabbin, le rôle du rabbinat, c'est le rôle de n'importe quel juif, mais c'est peut-être même le premier rôle du rabbinat, c'est-à-dire jouer ce rôle de fer de lance dans des opérations d'ordre social. On doit être sensible, notre rôle premier en tant que rabbin, c'est de se mettre au service de la communauté, c'est de se mettre au service des gens qui ont besoin de nous, aux personnes que nous pouvons aider, c'est leur apporter une présence, c'est faciliter une aide d'ordre, là, on l'a dit, d'ordre social, lorsqu'elle est nécessaire. On a tous été ébranlés, bien sûr, par la situation de tous ces réfugiés obligés de quitter l'Ukraine du jour au lendemain. Et d'ailleurs, quand vous rencontrez ces réfugiés, vous vous rendez compte qu'ils sont loin de l'image qu'on peut se faire parfois de certains réfugiés qui n'avaient déjà pas grand-chose, qui vivaient dans une pauvreté extrême et qui, au fond, ne se retrouvent pas forcément dans de pires conditions ici. Ce sont des réfugiés de vraiment tous bords qui ont dû quitter l'Ukraine. On le sait, on a entendu plusieurs millions de personnes déplacées. Et dans la communauté, eh bien, on retrouve exactement le même panel, avec aussi bien des gens qui avaient une vie tout à fait normale, la vie de monsieur et madame tout le monde, d'autres personnes qui avaient déjà une vie un peu plus en difficulté, mais des personnes qui, la plupart du temps, ont dû fuir du jour au lendemain sans rien, un petit sac à la main, tout au mieux éventuellement une valise, souvent pas de papier avec eux. Et le fait qu'on ait pu leur apporter cette aide, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce que nous avons voulu, et je le dis à ce micro, j'ai eu l'occasion de le dire au micro d'Avraham la semaine dernière, ce que nous avons souhaité au niveau du rabbinat, c'est apporter, au niveau, de manière plus large, au niveau du consistoire, c'est apporter une aide ciblée. Nous ne souhaitions pas que notre aide, qu'elle soit d'ordre alimentaire ou qu'elle soit d'ordre financier, puisse se perdre dans la nature. Nous souhaitions absolument, avec toutes ces plateformes qui existent et toutes ces demandes, eh bien, nous souhaitions, nous, que cette aide-là puisse aller directement dans la main des réfugiés. Et c'est donc après avoir identifié des communautés de réfugiés s'étant installées en Allemagne que nous avons décidé d'organiser cette opération en partenariat avec ces communautés allemandes.
Il y a des réfugiés qui venaient à Strasbourg.
Alors, on aura peut-être, je ne le sais pas au moment où je vous parle, on aura peut-être dans les semaines à venir des réfugiés qui s'installeront à Strasbourg. Certains sont en train de s'installer du côté de Colmar, peut-être certains s'installeront à Strasbourg. C'est vrai que dans un premier temps, une partie de ces réfugiés avec qui nous avons parlé souhaitaient rester en Allemagne. Je rappelle des communautés dans lesquelles il y a une grosse communauté russophone, et donc il était plus facile aussi pour eux de communiquer et peut-être de trouver des repères. Quoi qu'il en soit, cette première opération que nous avons menée a été un véritable succès. Mmh. On a pu donner vraiment de main à la main cette aide directe à ces réfugiés, stocker le reste de la marchandise pour les semaines à venir et pour les réfugiés qui devaient encore arriver. Et c'est tout naturellement que nous avons souhaité organiser une opération en spécial Pessah avec des produits cachers les Pessah. Et ça se passera donc ce dimanche, on l'a rappelé, où vous pourrez apporter, comme il y a deux semaines, vos produits.
Avant 16h quand même.
Exactement. Apportez vos produits avant même 15h de préférence, qu'on souhaite partir un peu plus tôt que dimanche il y a deux semaines.
Et vous y allez, vous ?
Alors j'irai aussi, j'y étais il y a deux semaines. Bezrat Hachem, je serai aussi du voyage ce dimanche. Et vous avez donc la liste de tous les produits qui figurent sur l'affiche. Avec, alors vous l'avez remarqué, on n'a pas demandé de matzot, tout simplement, et j'en profite pour féliciter, sans vouloir les mettre mal à l'aise, nos partenaires qui nous ont déjà fourni certains produits. Voilà. Notamment les matzot, on a reçu du vin, on peut encore amener du jus de raisin, enfin tous les produits sont listés, mais les produits que nous n'avons pas demandés sont tout simplement des produits que nous avons déjà reçus en très très grande quantité grâce à la générosité tout à fait extraordinaire de nos partenaires. Mais vous êtes également des gens exceptionnels. On a été dépassés par votre générosité il y a deux semaines, puisqu'une partie des produits n'ont même pas pu être chargés dans le camion. Vous inquiétez pas, ces produits-là serviront aussi. Ouais. Ils seront également livrés en Ukraine, mais on a dû faire ça en deux fois, tellement il y a eu à ce moment-là un accès à la générosité incroyable, et des personnes aussi de tous bords. Et je pense que c'est ce qui est aussi beau dans notre communauté, c'est voir finalement des gens de tous milieux, des gens de tous âges, des jeunes, des moins jeunes, venir apporter leur contribution à ce convoi. C'est un grand moment de solidarité pour la communauté juive de Strasbourg.
Alors je me suis vraiment de faire un effort, parce qu'on va quand même parler de la paracha. La paracha cette semaine, on le rappelle, c'est Tadria, c'est le nom de la paracha. Un petit résumé, parce que la paracha est courte.
Alors la paracha est courte, puisque cette année nous ne lirons que Tazria, et la paracha de Metzora sera... tout à fait, la paracha de Metzora sera lue la semaine d'après. Et donc la paracha Tazria, sachant que ces deux parachiotes sont souvent, la plupart des années, liées, et qu'elles sont lues ensemble, tout simplement parce qu'elles traitent du même sujet, qui est le sujet, après avoir parlé donc des problèmes de cacheroute et de pureté, d'impureté chez les animaux, et bien parler des problèmes de pureté et d'impureté chez l'homme, et en commençant donc par nous parler, donc, alors le tout début de la paracha nous parle de l'impureté qui est engendrée par la naissance, et on va sans doute y revenir tout de suite. Et tout de suite après, eh bien, nous allons parler d'une affection tout à fait particulière, souvent mal traduite par la lèpre. Pendant des années, on a traduit cette affection qui était la tazria par la lèpre, et qui est une affection physique, qui était l'expression symptomatique, on va le voir, d'une certaine forme de maladie, qui n'est pas une maladie physique, on va le voir, qui est une maladie d'ordre spirituel, mais qui nécessitait l'intervention du Cohen, un petit peu comme médecin de l'âme, qui était donc à ce moment-là consulté. Et c'est donc à cette affection qu'est consacrée notre paracha Tazria, une affection qui se décline sous plusieurs formes. Elle peut toucher les hommes, elle peut toucher également les vêtements, c'est ce qu'on verra dans une deuxième partie de la paracha. Voilà un petit peu donc en quoi de quelle manière se décline une paracha très technique, hein, il faut le rappeler, puisqu'elle va rentrer dans des détails extrêmement précis en concernant donc cette affection, avec des détails physiques parfois très techniques et très difficiles à traduire.
Alors, vous l'avez dit, on parle de l'enfantement dans cette paracha. Alors, si une femme enfante un garçon, elle est impure pendant 7 jours jusqu'à la Brit Mila, et si elle enfante une fille, la femme est impure pendant 2 semaines. Pourquoi cette distinction, cette différence, un enfant, c'est un enfant ?
Ça a l'air très discriminatoire, Jean. Ouais. Lorsqu'on lit le texte, effectivement, on est étonné de voir qu'il y a une différence entre la naissance d'un garçon, la naissance d'une fille. Alors certains esprits, on va dire pas forcément, qui ne s'inscrivent pas forcément dans l'esprit qui est celui de la Torah, des esprits un peu moqueurs, ont voulu dire qu'en réalité, cette impureté prolongée pour la naissance d'une fille, eh bien, serait tout simplement la conséquence peut-être de la, du, encore du péché originel imputé à Chava et, mmh. et que, qu'elle engendrerait finalement cette naissance féminine, une impureté qui serait plus longue. C'est non seulement absurde, mais c'est surtout avoir une méconnaissance absolue sur le terme de la Touma, sur ce que signifie l'impureté dans la Torah, qui est d'ailleurs très mal traduit par impureté, parce que l'impureté en français a une connotation extrêmement péjorative. Or, nous le savons, l'impureté, telle qu'elle est présentée, en tout cas la Touma, plutôt si je reprends le terme hébraïque, tel qu'il est présenté dans la Torah, n'est absolument pas une expression péjorative, c'est tout simplement l'expression qui rend compte de quelque chose qui touche à l'absence de vie. Alors, bien sûr, ce qui est la plus grande manifestation d'absence de vie, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle le cadavre humain est ce qu'on appelle avi avot atouma, la source la plus importante d'impureté. Et paradoxalement, Jean, la naissance, eh bien, évoque aussi déjà l'absence d'une vie. Alors je m'explique, vous allez me dire, c'est une absurdité totale, puisque la naissance, par définition, c'est donner la vie. Oui, sauf que lorsqu'une femme accouche, eh bien, elle a un potentiel de vie qui la quitte. C'est-à-dire que de la même manière que lorsque la femme, dans son cycle...
Oui, mais ça ne dit pas pourquoi une semaine...
Alors, je m'explique tout de suite, j'y viens, Jean. Je disais donc, c'était bien sûr en introduction, que la naissance, paradoxalement, eh bien, est... également, finalement, l'absence d'une vie, puisqu'il y a un potentiel de vie qui quitte le corps de la femme. C'est-à-dire que la femme portait en elle, à ce moment-là, deux potentiels de vie, le sien plus celui du bébé. Lorsqu'elle accouche, eh bien, c'est un potentiel de vie qui la quitte. Alors, bien sûr, pour s'exprimer de manière indépendante, mais elle est malgré tout quittée par ce potentiel de vie. Et l'expression, finalement, de ce potentiel de vie qui la quitte, eh bien, conduit à une touma. Alors, pourquoi une différence entre un garçon et une fille? Alors, on a des explications. Certains disent qu'en réalité, la femme aurait dû également être téméa pendant deux semaines pour l'accouchement d'un garçon, mais pour qu'elle puisse se purifier avant la Brit Mila, ouais. Alors la Torah a raccourci, on va dire, et a abrégé cette période de touma à une semaine. Une autre explication pour expliquer, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire qu'au départ, on pense qu'il est discriminatoire d'attribuer deux semaines pour la naissance d'une fille. Au contraire, lorsqu'on a compris que la touma était en réalité la manifestation d'un potentiel de vie qui vient quitter la personne, eh bien, vous l'avez compris, Jean, plus ce potentiel de vie est élevé, plus il est noble, et plus la touma sera importante. Or, naturellement, on le sait, eh bien, une fille porte en elle un potentiel de vie naturel qui est peut-être encore plus fort que chez les hommes et qui s'expliquerait par la dispense de certaines mitzvot. On le sait, les mitzvot, les commandements que nous pratiquons, sont là pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour nous élever et pour renforcer un petit peu notre potentiel spirituel. Quelqu'un qui a naturellement un potentiel spirituel plus élevé n'a pas besoin de l'accès à toutes ces mitzvot. C'est le cas des femmes qui sont par définition dispensées de ces mitzvot, et c'est peut-être la raison pour laquelle, eh bien, lorsque ce potentiel de vie féminin vient quitter la femme, la touma est plus importante.
Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on a l'habitude de parler de tsaharat en traduction la lèpre. Vous avez dit que c'était impropre. Comment vous traduisez alors le mot tsaharat?
La traduction n'est pas possible tout simplement parce qu'elle vient exprimer une affection qui est tout à fait particulière, une affection qui est singulière, qui ne rend pas compte d'une maladie physique telle que nous les connaissons. Donc vouloir absolument lier la tsaraat à une affection médicale, en listant peut-être toutes les maladies qui ont été trouvées depuis et répertoriées par les scientifiques depuis l'époque de la Torah, serait absurde. La tsaraat, c'est une manifestation qui est une manifestation propre à la Torah. On va le voir avec des symptômes tout à fait... particulier, qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on ne pourrait pas lier à des problèmes, un problème médical, et on le voit d'ailleurs dans la Torah pour un certain nombre de raisons, parce qu'on le sait, lorsqu'une personne est en danger, la Torah autorise à ce qu'on intervienne le plus rapidement. Alors là, on va voir qu'il y a des exceptions, des cas où la personne n'allait pas forcément montrer au Cohen sa maladie, ses symptômes. Or, si c'était véritablement un cas de ce qu'on appelle piquar nefesh, c'est-à-dire de danger de vie, de danger de mort plutôt, eh bien la personne devrait immédiatement immédiatement se rendre aux urgences. Donc on voit qu'il n'y a ici absolument pas de dimension médicale et donc pas de traduction parfaite qui existe. C'est une affection, on l'a dit encore une fois, une affection d'ordre spirituel qui est la manifestation d'une défaillance chez la personne, de graves manquements par rapport à sa manière de s'exprimer, par rapport à son rapport à l'autre, parce qu'on associe souvent la tarat, ce qui est juste, à la médisance. Surtout quand on parle du metsora, c'est la contraction de motzi shemra, c'est-à-dire celui qui n'a pas su garder sa langue et qui s'est montré coupable ici effectivement de calomnie. Ça va au-delà en réalité de cette réalité. Le metsora, c'est également celui qui a fait preuve de défaillance au niveau des mœurs, au niveau d'un certain nombre, qui s'est montré léger aussi dans le vol, mais avec un point commun, c'est la non prise en compte, on va dire, de la souffrance de l'autre et de ce que ma manière d'agir peut avoir comme effet négatif chez l'autre. Et pour cela, il faut une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle passe par un isolement, elle passe par une possibilité pour la personne de réfléchir à ce qu'elle a fait, de faire son introspection, mais surtout de revivre peut-être un petit peu l'expérience de ce qu'elle-même a fait subir à l'autre. Et ça passe par un isolement qui permet à la personne de se retrouver face à elle-même.
Monsieur Graba, on va écouter quelques notes de musique et on revient tout de suite après. Vous l'avez entendu et remarqué, Veshanda, puisque Monsieur Gourabin, nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Razel dans un concert exceptionnel. Ce sera demain à partir de 21h45 à la Synagogue de la Paix, suivi d'une belle Ave Malka. Les tarifs, 50 euros en VIP, 30 euros pour les standards et 15 euros pour les étudiants. Je crois qu'il y a encore des places en vente le soir même. Ce sera donc demain à partir de 21h45 à la Grande Synagogue.
Voilà, venez, c'est un moment vraiment exceptionnel. Je vous dis, recevoir Jonathan Razel à Strasbourg, c'est quelque chose, c'est hors du commun. C'est un artiste de très grand niveau et il ne reviendra pas la semaine prochaine. Ouais. Donc vraiment, profitez de ce moment exceptionnel. En plus, on en a bien besoin avec la période un petit peu troublée que nous vivons. Ce moment de concert et de spiritualité va nous permettre de nous ressourcer. Donc venez, inscrivez-vous, n'attendez pas la dernière minute. L'inscription par Internet, ouais, par Wizard, se fait vraiment très rapidement, en 2-3 clics. Donc pensez à vous inscrire rapidement.
Voilà, merci Monsieur Gourabin. Shabbat shalom, rendez-vous la prochaine fois. Merci à Lucas pour avoir réalisé l'émission niveau technique. Quant à moi, je vous souhaite un très bon Shabbat et on va encore écouter quelques notes de musique. Merci.
Shabbos Kodesh, you didn't look prepared for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh.